BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Bienvenue, c'est BFM Patrimoine qui ouvre ses portes pour vous accompagner 2 heures durant, comme chaque jour, au cœur du monde de vos placements. Et on file tout de suite sur les marchés. Antoine Larigauderie qui prend le pouls de cette première heure de cotation chaque matin depuis le siège d'Euronext à La Défense. Bon, séance forcément un peu particulière aujourd'hui puisque la Bourse de Londres garde porte close. C'est l'enterrement d'Elisabeth II.
Oui, les marchés sont en berne eux aussi, avec un CAC 40 qui perd 1,2%. On retombe sur les 6000 points. Et preuve que c'est un signal important, depuis qu'on est à 6002, on ne fait plus grand-chose. On semble s'être vraiment posé sur cette ligne de front. L'Eurostock 50 perd 0,9% et moins 0,6% pour le DAX à Francfort. On aurait pu croire que les marchés allaient se stabiliser un petit peu après avoir perdu 2,4% sur la semaine écoulée. Ben, en fait, pas du tout. La correction continue. On reste sur un climat de marché vraiment maussade, avec la crainte de voir les taux d'intérêt remonter encore de manière spectaculaire dans le futur, étant donné qu'on sent que les banques centrales sont prêtes véritablement à relever leurs taux de manière très très significative pour lutter contre une inflation qui a vraiment du mal à descendre. Donc du coup, on a tout un tas de secteurs qui plombent un petit peu la cote, et ça arrange pas les affaires des marchés. Alors à noter que l'euro-dollar, lui, tombe sous la parité. On était vraiment sur le fil ce matin, puis on a craqué la 0,9976. À noter alors des dégagements assez impressionnants sur les crypto-monnaies. On est sous les 19 000 $ pour le Bitcoin. On est à 1 300 $ pour l'Ethereum. On était même en dessous tout à l'heure. Donc il y a une véritable forte correction sur tous les actifs risqués, hein, évidemment. Et ça se traduit aussi par des baisses significatives sur un certain nombre de secteurs. Du côté de Paris, alors évidemment, en plus, on a M6 et TF1 qui ont annulé leur plan de fusion, et ça provoque une forte baisse du titre M6 qui perd 4,5% à 12,54 €. De la baisse aussi pour TF1. Malgré tout, ça reste à peu près pondéré, dans le sens où les marchés s'y attendaient quand même depuis très longtemps, hein, que ce mariage ne se fasse pas, étant donné la complexité des conditions de concurrence. À noter Valneva qui subit une très forte baisse, moins 12,4% à 7,11 €. On a CGG, moins 3,98 € à 85 €. Puis à noter OVH aussi qui perd 3,7% à 11,94 €. Sur le CAC 40, il n'y a plus une seule valeur qui soit en hausse. La plus forte baisse, c'est Unibail, Rodamco, Westfield, moins 3,2% à 50,57 €. On a Alstom, moins 2,36 à 19,05 €, ou Schneider Electric, moins 2,33 à 118,10 €. Ça, ce sont les plus fortes baisses. Du côté du SBF 120, quelques valeurs surnage. Aperam, plus 0,47% à 25,82 €, aidé par des fortes hausses du côté du cours des matières premières minières, hein, ce matin en Asie. Ça fait du bien au titre. À noter Plastic Omnium dans l'équipement auto qui gagne 0,35% à 17 €, ou encore EuroAPI, une valeur défensive par excellence dans la santé, qui gagne 0,35% à 17,34 €. Donc, baisse très marquée du CAC 40, qui passe très légèrement sous les 6000 points, 5999. L'euro à 0,9976. Puis à noter le pétrole qui plonge encore. On est à nouveau du côté des 90 $ pour le Brent de mer du Nord.
Antoine Larigauderie, que l'on retrouve chaque matin pour ouvrir cette émission et prendre le pouls de cette première heure de cotation. Merci Antoine.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Bruno Cavalier est en ligne avec nous depuis Oddo BHF. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous de ce lundi matin. Semaine qui sera marquée par la réunion de la Réserve fédérale américaine. Alors on a beaucoup parlé de l'inflation américaine, tombée maintenant il y a un peu plus d'une semaine. Et puis différents indicateurs. Alors comment peut-on anticiper encore un peu plus la Fed à quelques jours maintenant de l'échéance ?
On peut se référer d'abord aux dernières déclarations qui émanaient de la Fed. Alors, vous savez, il y a une période de silence, là, 10 jours avant la réunion. Donc, c'était il y a 10 jours à peu près. La plupart des commentaires pointaient vers une hausse des taux de 75 points de base, c'est-à-dire ce serait la troisième d'affilée. Dans l'intervalle, il y a eu le rapport sur l'inflation que vous mentionnez. Alors, on n'a pas eu de commentaires directs émanant des banquiers centraux, mais enfin, on a bien vu quelle interprétation a été donnée. L'interprétation, c'était que l'inflation, même si elle a passé son pic, elle reste quand même très élevée, elle est très diffuse, la baisse n'est due que à une modération des prix de l'essence, donc ça peut évidemment pas les satisfaire. Donc je pense que effectivement on se dirige vers une troisième hausse massive. En tout, on en aura eu 5 depuis le mois de mars, et donc en 6 mois à peu près, on aura eu 300 points de base de hausse de taux cumulés aux US. Il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu de cycle aussi agressif. Souvent, on avait en tête, oui, le plus agressif, c'est 1994. Mais en 1994, ils ont mis 12 mois à monter les taux de 300 points de base. Donc, je crois que c'est déjà ça qu'il faut attendre. Voilà, une première réflexion sur la réunion de la Fed.
Voilà donc pour cette réserve fédérale américaine. Mercredi, bien évidemment, rendez-vous avec cette hausse de taux. Vous mettez un billet plutôt quoi, sur 75 ou sur 100 points de base, Bruno ?
Non, je pense plutôt 75. Alors, on changera tous d'avis si, dans la journée, le Fed Watcher du Wall Street Journal nous publie un papier pour dire « Oh, mais peut-être que ça pourrait être 100 ». Au-delà de la décision, si vous permettez, je pense qu'il y a deux autres choses à suivre dans cette réunion. C'est d'abord dans les commentaires de M. Powell lui-même. On se rappelle que les derniers étaient quand même assez musclés. On ne voit pas très bien pour quelle raison il adoucirait le ton. Deuxièmement, c'est une réunion comme une fois tout, des réunions de fin de trimestre, j'allais dire. Le FOMC, l'ensemble des membres du FOMC revoit leur scénario économique, et puis ce que ça implique en termes de hausse de taux. Donc il y a cette notion de taux terminal. Où est-ce qu'on va arrêter la hausse des taux? Au mois de juin, il disait à fin 2023, le plus haut, ça sera 3,8. Vous voyez bien que on va déjà être à 3% probablement à la fin de cette semaine. Donc il sera intéressant de voir de combien il revoit à la hausse le niveau terminal de leur cycle de hausse de taux. Je pense que c'est assez probable qu'on se situe plutôt au voisinage de 4,5 et non pas de 3,75.
Voilà donc pour ces questions de banque centrale américaine. Et puis la semaine sera aussi marquée par une avalanche de PMI. Ce sera en toute fin de semaine, vendredi.
Oui, donc c'est l'enquête de confiance auprès des directeurs d'achat. C'est généralement considéré comme une approximation, disons, correcte de l'évolution du cycle, voire même du taux de croissance de l'économie. Bon, on sait que cet indicateur a beaucoup baissé depuis le mois de février, que depuis 2 mois, il est passé sous le seuil critique des 50 points. C'était en juillet et en août. Bon, qu'est-ce qu'on a appris depuis? On a vu que les prix de l'énergie, la crise de l'énergie a continué de s'intensifier. On a vu que les taux d'intérêt remontaient très vite, en particulier les taux d'emprunt hypothécaire. C'est le résultat direct d'avoir une BCE extrêmement, extrêmement agressive, elle aussi. On a un ralentissement de l'économie mondiale. Franchement, il y a aucune raison de penser que le sentiment général en Europe s'améliore en septembre. C'est vraiment, on comprendrait pas. On se dirait c'est une anomalie. Donc la vraie question, c'est de combien ça continue de baisser. Tu peux me permettre juste de donner un chiffre, parce que entre le mois d'août et aujourd'hui, tous les prévisionnistes ont revu leurs attentes. Les révisions en un mois sont absolument considérables. Je vais donner le chiffre. Au mois d'août, la croissance anticipée de 2023, la croissance moyenne anticipée en 2023, je prends la zone euro, c'était presque 1%. Aujourd'hui, on est tombé à 0,2%. Et ce 0,2%, de mon point de vue, est encore trop optimiste. Je crois que on va plutôt être à moins 0,5%. Mais passer de 1, presque 1, à presque 0 en un mois, dit assez combien la conjoncture s'est fortement dégradée au cours des dernières semaines.
Merci beaucoup pour ces quelques éclairages. Bruno Cavalier, donc, pour Oddo BHF, qui nous accompagne chaque lundi matin pour prendre le pouls, pour comprendre, pour analyser, pour anticiper aussi le contexte conjoncturel et macroéconomique. Bruno Cavalier, donc, Oddo BHF. Le marché parisien, lui, souffre ce matin. On baisse de quasiment 1% et on a menacé un instant les 6000 points tout à l'heure. Pour le moment, on a rebondi au-dessus de cette zone. 6020 points pour le CAC, moins 0,83%. 13%. On baisse dans les mêmes eaux ailleurs en Europe, moins 0,92 pour l'Eurostock 50. Et l'eurodoll est ce matin à 99,79.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Quand on possède un logement libre, le mettre à la disposition d'un de ses enfants semble plutôt simple et évident. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette évidence, entre guillemets, relève en réalité d'une obligation. Alors, quelle est donc l'ampleur de cette obligation et qu'en est-il si vous hébergez votre ou vos enfants chez vous? Explication signée il y a quelques jours par Delphine Pasquier pour l'ingénierie patrimoniale de Bread Banque Privée.
Exactement, exactement. Mais ceci dit, il y a quand même des distinctions à faire selon les situations.
C'est-à-dire ?
C'est vrai qu'au départ, on se dit, bon, j'ai des enfants qui, après l'été, prennent leur envol, ils poursuivent leurs études, ils n'ont pas encore de job, ils ont besoin de se loger, c'est normal, je vais les aider, et si je détiens moi-même un logement, je vais pouvoir leur mettre à disposition. Tant que les enfants ne sont pas en mesure eux-mêmes de subvenir à leurs besoins, on n'a pas de problématique. Finalement, cette aide familiale, cette entraide intergénérationnelle, elle est prévue par le Code civil. Elle est même obligatoire dès lors que les parents en ont les moyens. Donc, pas d'implication juridique. Et mieux encore, quand on aide ses enfants, on peut avoir un petit avantage fiscal puisque on a le droit de déduire les sommes que l'on a apportées pour l'entretien de ses enfants de ses propres impôts dans la limite de 6 042 euros par enfant majeur.
Bon, et ça, quel que soit, enfin, je veux dire, il y a pas, c'est pas comme les présents d'usage, il y a pas de rapport. Enfin, je veux dire, si on a envie de loger son enfant dans un duplex d'une grande métropole européenne, c'est bon, quoi.
Ça fonctionne, effectivement. Bon. C'est ce qu'on appelle l'obligation alimentaire et d'entretien. Bon. Donc, c'est une obligation, ce n'est pas une donation. Tout va bien.
Bon, je sens bien quand même dans votre discours que vous nous dites tout va bien, mais qu'il pourrait y avoir un mais. Ça peut poser des difficultés ?
Effectivement, vous avez raison, ça peut poser des difficultés. Et quand est-ce que ça va poser des difficultés ? Eh bien, quand la situation évolue. Les enfants finissent leurs études, ils commencent à travailler, ils ont des revenus. Eh bien, à ce moment-là, l'aide apportée ne relève plus de cette obligation alimentaire et d'entretien. Et là, du coup, on a des risques de mésentente familiale à venir. Est-ce que ce sera rapportable à la succession ou non ? C'est notamment la question qu'on doit se poser.
Donc, si je comprends bien, la première question qui est, enfin, le premier moment où il faut se poser la question, c'est quand on a plusieurs enfants. Parce que si on n'en a qu'un, c'est pas le fisc qui va venir chercher les poux dans la tonsure, c'est ?
Alors, ça dépend, ça dépend. Parce que, imaginons que vous laissiez un appartement en jouissance à votre enfant, alors qu'il a lui-même les moyens de subvenir à ses besoins. L'administration fiscale serait tout à fait en droit de requalifier cette situation en donation indirecte. Alors, c'est vrai que, là encore, la jurisprudence a évolué dans le temps. Jusqu'en 2012, cette requalification, elle était, on va dire, presque quasi systématique.
Ouais.
Parce qu'en fait, il suffisait de prouver que les parents s'étaient appauvris en ne percevant pas les loyers auxquels ils avaient droit, pour qu'il y ait qualification en donation indirecte. Depuis 2012, la situation s'est resserrée, redurcie au bénéfice des parents, puisqu'il faut non seulement prouver leur appauvrissement, mais il faut également prouver leur intention libérale.
D'accord.
Et c'est là où c'est un petit peu plus délicat. Mais ceci dit, le risque existe, donc il faut y faire attention.
Revenons au premier cas, celui où il y a donc plusieurs enfants et où ça peut poser difficulté. Comment est-ce qu'on peut résoudre ou limiter l'étendue des difficultés ?
Eh bien, plusieurs solutions sont possibles. Quand on met à disposition un logement, on a plusieurs possibilités. Première possibilité, on prête le logement. Deuxième possibilité, on en donne la jouissance temporaire ou pour une période toute la vie entière. Ou troisième possibilité, si on n'a pas soi-même de logement, on peut conclure un bail en lieu et place de son enfant et payer le loyer à la place. Ou alors, si on a un logement, le louer à son enfant sans percevoir soi-même les loyers. Et donc, chaque solution va avoir des implications juridiques et fiscales différentes.
Et il y en a une que vous recommanderiez plus que l'autre ou...
Pas forcément. D'accord. C'est vraiment en fonction, finalement, de ses propres attentes et de l'équilibre que l'on souhaite vis-à-vis de l'ensemble de ses enfants.
Bien sûr.
C'est vrai que parfois, même si les enfants commencent à travailler, tous n'ont pas forcément les mêmes capacités et on aura envie d'aider plus particulièrement un enfant qu'un autre sans que ce soit rapportable à la succession. Dans ce cas-là, je vais opter pour le prêt à usage ou commoda de mon logement. Je vais formaliser le prêt du logement à mon enfant. Alors, c'est important de bien le formaliser, parce qu'un prêt à usage, le principe, c'est qu'il s'éteint quand l'emprunteur n'en a plus besoin. ça peut durer longtemps. Ça peut durer très longtemps.
Juste, petite digression, ça a un coût. Enfin, quand vous dites formaliser, c'est quoi? C'est devant notaire? C'est par une déclaration aux impôts?
Il est toujours préférable de faire un acte notarié parce que, évidemment, ce sera enregistré, on pourra le retrouver et la force de la preuve est beaucoup plus importante.
Évidemment.
Donc, oui, ça a un coût qui reste, somme toute, très minime.
Est-ce qu'il y a d'autres alternatives possibles?
Oui, bien sûr. Donc, deuxième possibilité, je fais un contrat de bail à mon enfant. Et là, si je lui fais payer un loyer de marché, pas de problématique, hein, on est sur une location classique. Si je minore la valeur de marché du loyer ou si je m'abstiens de percevoir le loyer, là, l'administration fiscale est encore une fois en droit de requalifier cette opération en donation indirecte. Et donc, avec tous les coûts et les implications que ça induit, y compris le rapport à la succession. Et en plus, comme c'est un bail de loi 89, eh bien, je suis plus ou moins contraint, là encore, pour récupérer le bien si j'en ai besoin, parce que à la retraite, j'ai envie de le louer pour avoir des revenus complémentaires, etc., etc.
Est-ce que tout ce que vous venez de nous dire, qui, on va dire, est descendant des parents vers les enfants, est valable dans l'autre sens? En clair, si moi, enfant, je loge mes parents? Est-ce que le même schéma que vous venez de nous exposer est retournable, entre guillemets?
Exactement. D'accord. Puisqu'effectivement, cette solidarité intergénérationnelle prévue par le Code civil va évidemment des parents vers les enfants, mais de la même manière, des enfants vers les parents. Les parents devenus retraités, ayant des revenus bien moindres, qui pourraient se retrouver en difficulté vis-à-vis d'un loyer à payer, pourraient effectivement s'appuyer sur les revenus de leurs enfants. Donc il y aurait une solidarité entre tous les enfants pour apporter cette aide aux parents.
Voilà donc les explications de Delphine Pasquier pour l'ingénierie patrimoniale de Bred Banque Privée. Le marché parisien toujours un petit peu en difficulté, à la porte des 6000, juste au-dessus pour le moment, 6018 points.
Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
David Imo qui accueille ce matin Jean Castet, directeur général France de Friday. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, un petit mot de présentation. Friday, qui êtes-vous?
Donc, bonjour et merci de me recevoir. Donc, Friday, nous sommes l'émanation digitale du groupe d'assurance suisse Labaloise.
Bon. Alors, spécialisé
en assurance habitation, ce qu'on appelle la multirisque habitation dans notre jargon.
Que tout le monde, entre guillemets, a dans son portefeuille.
En l'ayant acheté ou juste en en bénéficiant, parce qu'effectivement, nous pouvons faire bénéficier des garanties de la multirisque habitation aux différents membres de notre famille.
Voilà donc les présentations. En fait, votre créneau, ce matin, il tourne autour du pouvoir d'achat des Français, avec une idée phare, c'est de dire ils sous-estiment les économies qu'ils pourraient faire en matière d'assurance. C'est-à-dire
qu'effectivement, avec le digital, et c'est pour ça que nous sommes une émanation digitale d'un grand groupe d'assurance, nous sommes capables, en fait, d'améliorer le contenu des services et des garanties d'assurance incluses dans un contrat d'assurance habitation. Il faut savoir que l'assurance habitation, c'est un produit qui est extrêmement populaire. Les Français, dans leur très grande majorité, en sont satisfaits. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé par ce produit-là, qui rencontre quand même à plus de 70% dans les dernières études un très fort plébiscite sur la qualité de service. Mais avec le digital, nous sommes capables de garder ce niveau de garantie en abaissant considérablement les prix. En abaissant considérablement les prix, comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est un petit peu le credo de ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire qu'on va directement chez vous, les Français, chez nous, et on va proposer notre service. On le fait comment? Sur Internet, mais aussi sur les comparateurs. Mais on le fait, alors digital ne veut pas dire non plus pas d'humain. Au contraire, on le fait en investissant sur l'humain, sur nos conseillers, tant à la vente que lorsque vous avez un sinistre.
Oui, mais parce que, tout le monde a, et vous avez notamment créé les furets, tout le monde a déjà, s'est déjà amusé à se dire, bon allez, tiens, je prends tous mes papiers et je vais voir si finalement je me fais pas un petit peu avoir depuis des années avec mon assurance et j'ai envie de comparer. Mais en fait, chacun a une vie particulière avec son assureur, a eu des sinistres ou pas, a telle typologie de biens, Bon, et quand on remplit bêtement les cases dans un comparateur, on s'y retrouve pas dans les résultats, et puis on est tout seul face à un écran, et puis celui qui reprend contact après, c'est plus un commercial qui veut vendre son produit plutôt qu'un expert qui veut se pencher sur notre situation. Donc c'est pas facile non plus d'aller gratter quelques euros par-ci, quelques euros par-là, non ?
Exactement, c'est l'expérience que nous avons tous eue en allant sur des comparateurs d'assurance, et l'assurance a cette particularité que le prix le plus bas peut être un produit très cher à partir du moment où vous retirez des garanties.
Oui.
Et chez Friday, on en a tout à fait conscience, et c'est à partir de ce constat qu'on a bâti des produits de très très grande qualité en termes de garantie et en termes de service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en investissant sur ces produits-là, nous avons des clients très satisfaits, et donc derrière, ce sont des clients qui peuvent nous recommander, et nous continuons à abaisser nos coûts d'acquisition, et ces économies, nous les remettons dans la poche des Français. Dans votre poche, mais dans ma poche, parce que je suis moi-même client de Friday. Ouais.
Et concrètement, si je vous appelle, que je vous dis, bah voilà, moi j'ai ceci, j'ai cela, vous faites mon devis, entre guillemets, mon étude, et puis je vous dis, bah oui, mais vous me proposez un truc à 100, et moi, mon assurance aujourd'hui, elle est de 80, voilà. Qu'est-ce que vous allez me dire ?
Bah là, dans ces cas-là, on vous dira, bien joué. Si vous avez exactement les mêmes garanties, voire des garanties meilleures, on ne va pas vous pousser la vente parce que ça ne sert à rien, c'est un mauvais conseil. Et nous sommes aussi régulés et nous devons donner des conseils. Et donc, de facto, toutes nos interactions avec nos clients sont enregistrées. Donc, on ne va pas vous pousser à la vente quelque chose qui ne peut pas vous intéresser. Par contre, on va découvrir vos besoins plus en détail. Et heureusement, ce cas de figure arrive dans une infime minorité des cas. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, nous avons conçu nos produits pour être extrêmement performant, qualité-prix.
Et aujourd'hui, le client, il est à quelques clics de vos propositions, mais est-ce qu'il peut tout comprendre ?
Alors, bien évidemment, nous essayons de faire en sorte que...
Qui a le pouvoir, quoi ? Est-ce que c'est le client ou est-ce que c'est l'assureur ?
Ah ben, c'est toujours le client qui peut choisir. Nous faisons une proposition. Nous essayons de la rendre la plus lisible possible avec, effectivement, des mots qui sont le moins techniques possible, le moins d'exclusion possible, c'est un peu un piège aussi, nous restons dans le cadre de l'assurance, et effectivement, une fois qu'on a ces propositions, libre à vous de la choisir. Derrière, nous sommes capables de vous accompagner, de vous les expliquer, et de façon plus importante, nous avons aussi toute une équipe d'experts en cas de sinistre ou en cas d'urgence qui peuvent répondre à tous vos besoins. Et nous nous sommes appuyés sur la force de l'assurance multirisque habitation en France, qui est d'un très haut niveau de satisfaction client en cas d'urgence. Et donc nous nous appuyons sur ces experts reconnus pour vous les mettre à votre disposition avec des outils digitaux.
Aujourd'hui, vous rappeliez qu'on peut effectivement se diagnostiquer, se faire deviser, etc. très rapidement. Mais est-ce qu'on peut partir aussi rapidement ?
Alors, c'est une des forces aussi. De la même façon que nous sommes assez confiants sur la qualité de notre produit, chez Friday, nous vous permettons de partir quasiment du jour au lendemain, dès la première année. Nous n'attendons pas ce qu'on appelle la fameuse loi Hamon. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, 6 mois, vous pouvez partir. À tout moment. C'est une propre...
Et facilement.
Et facilement. Vous nous envoyez une lettre recommandée et c'est parti. Vous êtes plus chez nous.
Il n'y a pas de question de savoir est-ce qu'on est dans la date anniversaire de...
Nous avons été une étape plus loin. C'est un petit peu, on connaît bien la loi Hamon, mais nous pensons qu'en fait, cette loi Hamon s'inscrit tout simplement dans le besoin des consommateurs. Et comme nous-mêmes, nous sommes très confiants dans la qualité de nos produits, nous allons encore plus loin que la loi Hamon, parce que nous savons que si notre client part, ce n'est pas à cause de notre service ou de la qualité de notre produit, c'est pour d'autres raisons personnelles qui ne nous regardent pas. Parfois. Et donc, nous allons encore une étape plus loin.
Juste un petit mot pour l'avenir. Enfin, quand on parle d'assurance et d'immobilier, il y a bien sûr l'assurance habitation, mais il y a aussi d'autres assurances comme l'assurance crédit, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les bouleversements de ce monde-là, c'est quelque chose qui vous fait de l'œil ?
Alors, bien évidemment, là, vous avez touché un point sensible. Et effectivement, c'est une opportunité très, très intéressante que nous regardons de près. Que nous ne lançons pas tout de suite à court terme, parce que nous sommes d'un groupe suisse et nous prenons notre temps de faire les choses bien. Mais effectivement, ce marché est un marché important. C'est une bonne nouvelle pour les clients qui, encore une fois, peuvent voir...
Pourront gagner du pouvoir d'achat.
Exactement. Et l'assurance est un acteur clé dans ce domaine.
Jean de Castet et Friday ce matin sur BFM Business. Merci de nous avoir rendu visite.
Très
bonne journée.
Merci.
Le marché parisien est à 6025 points. Il baisse de 0,86%. Qu'en disent nos traders de ce seuil des 6000 et puis de cette journée un peu particulière, puisqu'on rappelle que les investisseurs britanniques ne sont pas là pour cause d'obsèques de la reine. On va retrouver dans un instant Andrea Tweny et Jean-Louis Cussac. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Nos deux traders sont à leur poste pour lire la séance du jour et vous donner quelques idées sur les supports, les résistances, les canaux sur lesquels navigue le marché. Jean-Louis Cussac, Andrea Tweny. Jean-Louis depuis Perceval Finance Conseil, Andrea depuis Saxo Bank. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous de cette journée forcément un peu particulière puisque la bourse doit faire 100, la bourse de Londres fermée pour les obsèques de la reine. Andrea, comment voyez-vous un petit peu se formaliser les choses aujourd'hui ?
Assez dur. On a une dynamique qui est assez compliquée hein, depuis la semaine dernière. On est revenu sur des plus bas de juillet sur le CAC. On essaye de préserver les 6000 points. On va dire pour le moment, c'est peut-être un petit peu l'objectif, mais on a quand même un risque de glissade jusqu'à 5925 par exemple, qui est le prochain support identifié sur cet indice CAC 40. Mais on sent que la situation est lourde. Hein. Ça a commencé avec des indicateurs macroéconomiques qui étaient plutôt inquiétants, alarmants, notamment du côté de l'inflation aux États-Unis. Et donc, on a cette réunion de la Fed aujourd'hui qui suscite énormément d'attentisme. Alors en plus aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, la bourse de Londres reste fermée et donc du coup on a des volumes qui sont un peu moins importants. C'est une combinaison entre Londres fermée et aussi des marchés attentistes avant la Fed, parce que même si une hausse de taux de 75 points de base, c'est le scénario de base, c'est celui qui est privilégié par les investisseurs, il y a quand même une minorité d'investisseurs qui parient sur une hausse de 100 points de base et donc du coup ce risque aujourd'hui il pèse sur les marchés. Il y a un impact aussi sur le dollar, un impact sur plusieurs valeurs, notamment des valeurs cycliques, les valeurs de la tech, et donc voilà, on sent que la tendance et la dynamique est lourde. Ce risque autour de l'inflation, ce risque aussi de récession, ce risque sur les comptes des entreprises. On l'a vu avec FedEx la semaine dernière. On a eu aussi la fusion qui a capoté entre TF1 et M6. Voilà, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles à digérer pour les marchés actions. Et on voit du coup cette tendance qui se complique de jour en jour sur le CAC. On pensait pouvoir un petit peu enrayer ce mouvement de baisse déjà en fin de semaine dernière, mais on a vu encore une fois, on a enchaîné des séances négatives et puis encore, voilà, encore une fois, on revient sur des points bas avec vraiment ces 6000 points qui sont fragiles, très fragilisés même ce matin, et si jamais on venait à basculer sous les 6000 points, on pourrait revenir assez rapidement sur une zone de support que j'ai rappelé tout à l'heure autour des 5925 points, mais c'est vrai que voilà, la tendance est lourde et on s'attend pas à avoir énormément de mouvements ou peut-être énormément de changements dans la dynamique avant cette réunion de la Fed qui cristallise évidemment les attentes depuis déjà la semaine dernière.
Voilà la vision proposée par Andrea Tweny. Jean-Louis Cussac, même interrogation sur cette séance un peu particulière.
Il y aura moins d'arbitrage déjà, c'est sûr. Bon, ça va pas jouer non plus à énormément d'intérêt. On va avoir quand même du un peu de volume. D'ailleurs, ce matin, il y a 400 millions, c'est à peu près comme d'habitude, même un peu plus que la semaine dernière à cette heure-là. Donc, vous voyez, c'est assez normal, on va dire. Là, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est l'état dans lequel se situe ce marché, l'état psychologique notamment. On casse un point bas ce matin, avec un gap à la baisse, alors un petit gap, mais un gap à la baisse. Et on casse un point bas depuis juillet. Derrière, zéro accélération. Rien. Il se passe pas grand-chose. Est-ce qu'on est lourd, comme disait Andrea, ou est-ce qu'on est un peu anesthésié? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. La phase actuelle est très, très, très particulière parce que elle a été très anticipée, elle est dans les scénarios potentiels. Donc même quand on est remonté à 6004, beaucoup se disaient bon, si on y retourne, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on vend maintenant à 6004, comme ça on vendra pas à 6000? Est-ce qu'on prend le risque? Voilà, tout ça a été analysé, anticipé, réfléchi, et c'est pour cela que même la volatilité implicite, alors que le marché a bien reculé, eh bien, elle a peu bougé. On est repassé de 20 à 23. Et vous voyez, c'est pas énorme parce que la méfiance a toujours été extrêmement présente. Donc on est biais baissier, on cherche à vendre, c'est vrai, là on est placé sur des niveaux comme 6040 par exemple, pourquoi pas. Mais comme la fois dernière, on hésite beaucoup à vendre sur cette zone support potentielle. Je vous dis encore une fois, oui, on l'a peut-être cassé, mais on est toujours au-dessus de 6000 quand même. Et donc ce marché, ben, c'est pas un grand moment d'initiative. Alors on peut acheter quelques calls en se disant si ça rebondit, de toute façon, comme je vais chercher à vendre, ça sera le sens. Eh bien, l'idée, ça sera d'être protégé par ces options. On peut se dire, je vends jusqu'à combien? Voilà, c'est ça la question. C'est, il est où le niveau de retournement? Ah, peut-être 320, peut-être 300. Alors, on pourrait dire, tiens, je vends jusqu'à 6160. Après, on va peut-être être en train de s'améliorer un petit peu. Il faudra pas tomber dans le piège d'un marché qui remonte à 6400. Ce serait dommage. Donc, on peut se fixer des limites comme ça. 6160, je vends. Je cherche à vendre le mieux possible. Vous voyez? Mais c'est vrai que ce marché est très, très, très spécial. Donc, on voit bien qu'il a montré, il a vraiment montré qu'il n'était pas d'une vulnérabilité exceptionnelle. Il y a cette très grande prudence. Même FedEx vendredi soir n'a pas réussi à emporter, je dirais, les derniers optimistes entre guillemets, mais ceux qui sont encore, qui croient encore, qui se disent après tout, c'est une zone d'achat. Il y a beaucoup de valeurs qui sont peut-être sur des niveaux support. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des configurations de valeurs qui sont assez inquiétantes, mais ce marché résiste. Il résiste. Et les volumes restent faibles, les initiatives restent faibles. Même, vous voyez, on attend par exemple une hausse des taux d'intérêt. Donc la BCE va marteler ce week-end qu'il fallait nécessairement relever ses taux d'une manière assez forte. Et même l'euro, il bouge pas beaucoup, il reste quand même sous la parité. Toujours baissier l'euro-dollar, bien évidemment. Mais vous voyez, même l'euro, ça lui permet pas de rebondir vraiment. On est dans une situation d'observation, d'attente, d'accord, de confusion généralisée, voyez. Et il n'y a rien de très clair, pas de visibilité. Donc ça, c'est pas vraiment un marché qui ouvre la porte à des grandes initiatives.
Merci beaucoup Jean-Louis. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, Andrea Tony chez Saxo Bank, que l'on retrouve tout à l'heure à 11h30, Andrea, pour suivre cette séance. Et on vous remercie de nous suivre en cette matinée de lundi. Le CAC 40 qui perd donc 0,85%, 6025 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
C'est donc tombé vendredi et ça a fait les choux gras du monde médiatique tout au long du week-end. Le mariage TF1-M6 n'aura pas lieu. Que s'est-il passé?
Eh ben, vendredi, il y a un entretien informel entre les deux acteurs, TF1-M6, et puis des membres du collège de l'autorité de la concurrence. Je dis informel parce qu'il n'y a pas eu d'avis de l'autorité de la concurrence, même si quand même les choses sont très claires. Et donc, ils décident après bourse de renoncer à ce projet. Alors, pour résumer l'histoire, c'était « Ok, vous vous mariez, mais vous cédez TF1 ou vous cédez M6 ?» Ou alors, a priori, la réponse sera non. Vous imaginez bien que s'il n'y a plus TF1 ou plus M6 dans l'histoire, l'intérêt industriel du projet vole en éclat immédiatement. Alors l'enjeu, il y a eu là, à très court terme d'ailleurs, pour Bertelsmann, hein, qui est la maison mère de RTL Group, propriétaire d'M6, c'est de trouver un plan B. Seulement, le temps est sacrément compté, car va intervenir au mois de mai le renouvellement de la fréquence d'M6, et après un renouvellement de fréquence, vous ne pouvez rien faire pendant 5 ans. Donc ça fige les choses pendant un sacré bout de temps. Donc voilà où on en est ce matin au moment où l'on parle.
Pourquoi l'autorité de la concurrence s'apprêtait à dire non?
Benoît Cœuré s'exprime, il s'est exprimé ce matin sur BFM Business, également dans les Échos. TF1-M6 aurait eu un pouvoir de marché excessif sur le territoire national. Les synergies auraient entraîné des hausses de prix pour les annonceurs et les distributeurs. Alors c'était la position de Benoît Cœuré, c'est exactement la position de Canal+ et de Maxime Saada. C'est pas la position de Delphine Arnault, qui pour des raisons qui lui sont propres avait tendance à vouloir supporter ce projet. Et en face, vous avez les deux fiancés qui plaidaient la nécessité de grossir, la nécessité de s'armer face à la concurrence des plateformes américaines, Google, Disney, mais Amazon Prime Video, qui fait quand même, c'est vrai, de la quasi-télé en diffusant en direct aujourd'hui des événements sportifs, face à Netflix, qui s'apprête à lancer un abonnement payant, mais un abonnement payant avec de la publicité. Et donc là, effectivement, ils considèrent qu'ils sont devant une future concurrence colossale vis-à-vis de laquelle il faut prendre les devants. Voilà, c'était un peu leur principal argument.
Comme souvent, dans ce genre de dossier, se pose la question de savoir qui a raison si la France ne rate pas, enfin la France ou l'Europe d'ailleurs, oui, ne rate pas une occasion de donner naissance à un champion, parce qu'on a cette fusion ratée entre TF1 et M6, mais on pourrait rappeler le Grand Schneider et d'autres. Enfin oui, voilà, donc déjà
quand
sur
on
ce
regarde les dossiers qui ont un peu fait polémique, qui ont effectivement capoté devant les autorités de la concurrence, ils sont très peu nombreux en fait. Dans la plupart plupart des cas, les opérations passent. Voilà. Il y a certaines opérations qui ne passent pas, et puis ça peut créer des regrets. Mais vous allez voir, c'est le thème que je veux développer, c'est que c'est très facile d'avoir les certitudes aujourd'hui, mais c'est très difficile d'imaginer quand on est une autorité de la concurrence ce qui va se passer demain. Alors Benoît Coeuré, il dit, moi, voilà, j'ai pas un rôle de, je suis pas là pour acter une politique industrielle. On est bien d'accord. Il est là pour observer les parts de marché d'un projet de fusion-acquisition. Ces parts de marché risqueraient-elles de nuire à la concurrence, ce qui pourrait à la fin pénaliser le consommateur parce que ça créerait une forme de position dominante. J'ai pas dit abus, hein, mais de position dominante. Et face aux offres d'abonnement avec publicité de Netflix ou encore la retransmission en direct des événements sportifs d'Amazon, eh bien, Benoît Coeuré nous dit, on n'a pas d'éléments prospectifs. Et le mot qui est important, prospectif, convaincant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression concurrentielle suffisante sur la télévision gratuite qui offre un espace publicitaire d'une puissance inégalée. Il considère qu'aujourd'hui, en fait, M6 et TF1 restent dans une position de puissance publicitaire inégalée et que l'éventuel durcissement d'une concurrence qui viendrait des plateformes américaines n'est pas, en fait, avéré, n'est pas renseignable. Alors, la difficulté de ce type de dossier, c'est que une autorité de la concurrence, elle regarde le dossier avec les chiffres du moment. Elle regarde le dossier avec la télévision, la publicité télévision à l'ancienne. Et on peut aussi imaginer qu'on mette d'autres lunettes pour essayer de regarder ça avec une sorte d'anticipation de la façon dont le secteur est appelé à évoluer avec justement l'apparition et la montée en puissance de la publicité numérique. Alors je comprends très bien que la publicité numérique sera parfaitement ciblée et que la publicité télé sera non ciblée, touchant un public beaucoup plus large. Mais c'est vrai que quand vous regardez justement l'histoire de différentes opérations, pas forcément des opérations d'ailleurs qui ont capoté, on se dit que la doctrine des autorités de la concurrence au sens large, parce que ce que dit Benoît Coeuré est vrai, il n'est pas là pour faire de la politique industrielle, mais cette doctrine est quand même perfectible. Prenez dans les années 2000-2010 les grandes majors de la musique aux États-Unis qui décident de s'unir parce que c'est terrible, il y a le piratage internet de la musique, on ne gagne plus d'argent, et donc effectivement on va arriver à des opérations de fusion-acquisition qui vont obtenir des feux verts. Et on a un énorme Universal, on a un Warner absolument colossal, on a un Sony colossal. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? En fait, ils ont développé du streaming payant. Et aujourd'hui, ils sont mastodontes et ils sont à la tête d'un empire monumental qui rapporte plus d'argent qu'avant Internet quand on parle du marché de la musique. Donc à l'époque, on leur dit « oui, allez-y ». Mais on n'anticipe pas le monde de demain et comment il va évoluer. Qui était vraiment capable d'imaginer comment les choses allaient se passer? C'est pas si évident. De la même manière, on va autoriser Facebook à racheter Instagram, WhatsApp. Ça gagne pas d'argent. Bon, allez-y, rachetez, oui. Eh oui, à part qu'aujourd'hui, Instagram, c'est la moitié du chiffre d'affaires de Meta. Qui pouvait penser qu'à l'époque où ils rachetaient ces entreprises. Donc voilà, c'est très très difficile de dire qui a raison justement pour répondre à la question. Parce que regardez, c'est vrai qu'aujourd'hui vous prenez TF1, M6, ils sont ultra puissants sur les spots télé en prime time. Mais demain, il reste quoi du prime time? Est-ce que le prime time, ça existe encore avec la multiplication des acteurs, la multiplication des offres? Et est-ce qu'ils n'ont pas raison en disant que aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui, oui, peut-être, mais regardez dans 5 ans comment les choses peuvent évoluer et on regrettera à ce moment-là d'avoir empêché l'opération.
Oui, comme on pourrait regretter aujourd'hui d'avoir empêché Alstom Siemens face aux Chinois, qui eux ont fusionné.
Ce serait très arrogant de ma part de dire lui a raison, lui a tort. Mais ouais, il y a cette histoire de est-ce que je regarde la photographie du moment ou est-ce que je regarde la dynamique, mais comment j'arrive à évaluer cette dynamique? En tout cas, aujourd'hui, Benoît Coeuré nous dit, je n'avais pas les éléments prospectifs convaincants.
Nicolas Dose et la polémique du jour, le marché parisien qui reste en territoire négatif pour quasiment 1% et qui menace les 6021 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Emmanuel Gérineau est avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Cédric.
Pour Intersélection, et on va parler des placements et d'inflation, parce que dans le contexte, c'est pas facile de savoir quels sont les types de placements qui sont conseillés, d'autant qu'on a commencé par nous dire non mais ça va, l'inflation c'est temporaire, c'est transitoire, aujourd'hui c'est devenu durable.
C'est devenu durable et les derniers chiffres annoncés ont été encore moins bons que prévu, puisque maintenant on s'attend à une inflation pour cet automne de l'ordre de 6% et jusqu'à la fin de l'année peut-être 8%. Donc c'est pas tellement étonnant si on prend en compte en fait la hausse du prix du gaz naturel déjà qui est de 200% depuis le début de l'année et qui fait suite déjà à une autre augmentation en 2021 qui était de 260%. Donc on pourrait même se dire que l'inflation elle a été relativement contenue jusqu'à présent grâce aux différentes mesures qui ont été prises, que ce soit le gel du prix du gaz ou le plafonnement du hausse l'électricité. Et on a vu, par exemple, les effets désastreux aux États-Unis et en Angleterre, où là, par contre, la hausse du prix a été directement imputée sur les factures. Et on voit déjà que les consommateurs en Angleterre, ça y est, sont passés en territoire négatif en ce qui concerne l'indice de confiance, qui est la première fois depuis la pandémie. Voilà. Donc, pour rappel, hein, les prix, l'énergie, c'est très important dans le budget. C'est à peu près 9% les produits énergétiques dans un budget de consommation des ménages. Et pour les entreprises industrielles, c'est près de 30% du coût de fabrication qui provient de l'énergie.
Et on en a vu certaines qui, d'ores et déjà, réduisent la production.
Qui réduisent la production et qui, de toute façon, vont l'impacter sur le prix final. Donc, ça veut dire que cette inflation qui provient de la hausse des prix de l'énergie, à un moment donné, entraîne systématiquement des revendications salariales. C'est ce que l'on voit actuellement avec les négociations qui sont mises en place dans différents secteurs d'activité. Aussi, les augmentations des prestations sociales. Et si on tient compte, en plus, des difficultés que subissent les entreprises au niveau des recrutements, on voit très bien que ça entraîne une inflation qu'on dit de corps, c'est-à-dire hors énergie et hors alimentaire, et qui va devenir une inflation durable et entraîner ce cercle vicieux.
Ouais. Et qui entraîne les banques centrales à agir. Alors, avec peut-être des situations différentes de part et d'autre de l'Atlantique, mais en tout cas, on se pose la question, notamment en Europe, dans la mesure où cette inflation, finalement, elle vient surtout d'une crise d'offres, pas d'une crise de demande. Enfin, et c'est de l'importance. Enfin, c'est presque de l'inflation importée.
Absolument, mais c'est pour ça que les banquiers centraux, en fait, ont un rôle d'ancrer les anticipations inflationnistes pour pouvoir justement éviter qu'elles aient une propagation et que ça devienne un cercle vicieux. Et c'est la raison pour laquelle c'est efficace d'augmenter les taux courts. C'est ce que fait la Fed, qu'elle a déjà fait. Elle a carrément annoncé lors de Jackson Hole qu'elle était prête à mettre vraiment en place une restriction sur la demande et même des politiques de souffrance pour pouvoir ramener cette inflation à un niveau de 2%, qui est l'objectif que tout le monde souhaite avoir. Et la Banque centrale, pareil, a déjà aussi augmenté ses taux de 0,75% après une première hausse de 0,50% en juillet. Donc, ça devient assez récurrent. Et elle nous avertit qu'elle va le refaire aussi en 2023-2024, si c'est nécessaire. Donc, cette hausse des taux, forcément, pour les consommateurs, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est un renchérissement du coût de l'accès au crédit. C'est une baisse du pouvoir d'achat. Et vous vous souvenez que Milton Friedman disait que l'inflation, c'est la seule forme d'imposition qui n'a pas été décidée par le législateur. Ah oui. Donc, c'est le consommateur, malheureusement, qui en paye les frais aussi. Par contre, côté investisseur, eh bien, on peut aussi voir le côté positif en se disant que la hausse des taux, c'est de nouvelles opportunités. Mmh. Et en tous les cas, une façon de revoir ses placements.
Oui, de revoir, parce que ça veut dire qu'il va falloir réorienter, faire des choix, parce que, bah, par exemple, les fonds en euros, de l'actif général, certes, les taux peuvent augmenter, mais face à l'inflation, le taux réel reste bien maigre, voire négatif. Comment est-ce qu'on peut orienter justement son portefeuille dans ce nouveau contexte ?
Alors, dans un contexte d'inflation et de hausse d'intérêt, en fait, si vous êtes convaincu que l'inflation va perdurer, vous avez deux types de supports. Les supports qui vont vous protéger de l'inflation et les supports qui vont profiter de l'inflation. Les supports qui vont vous protéger, typiquement, c'est la pierre papier, hein, donc les SCI, les SCPI. Vous avez vu un record encore absolument incroyable de collecte au premier semestre 2022, plus 5 milliards de collecte pour les SCPI. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles ont eu très bon rendement, en moyenne 4,5% jusqu'à 6,5% pour certaines SCPI. Mmh. Et aussi justement parce qu'elles ont cette réputation d'être un protecteur en fait contre l'inflation, puisque les loyers sont directement indexés à l'inflation. Donc nécessité de bien choisir ces SCPI, c'est-à-dire qui ont des locataires qui vont être capables d'encaisser ces nouvelles hausses de loyers. Et puis aussi qui seront diversifiés et des SCPI qui n'auront pas un levier d'endettement trop élevé pour ne pas subir la hausse du coût de la dette. Et qui seront agiles dans leurs arbitrages puisqu'elles peuvent prendre la place de certains acteurs qui se sont désistés du fait de cette hausse du coût de la dette. Donc il y a des arbitrages à faire, des nouvelles acquisitions qui sont très intéressantes mais qui s'adressent à des SCPI qui sont assez solides et qui ont de la visibilité. Vous avez aussi l'or, peut-être que vous avez déjà renforcé votre poche sur l'or, positionnement qui est intéressant quand on pense que c'est un support qui est résistant en période d'inflation et de crise financière, mais qui évidemment doit être quand même assez contenu étant donné la volatilité et les prix qui sont historiquement très élevés depuis 3 ans.
Alors, vous nous avez dit il y a 2 catégories. Là, on a vu ceux, entre guillemets, qui protègent. Maintenant, ceux qui profitent de l'inflation.
Alors, dans la famille qui profite de l'inflation, ce n'est pas une grande famille, hein, mais vous avez les produits structurés, dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'ils ont retrouvé justement un attrait de la part des investisseurs, puisqu'avec la hausse des taux, les structureurs peuvent enfin proposer des produits structurés plus attractifs, et surtout avec une garantie en capital, tout en ayant des échéances et des maturités qui ne sont pas trop longues. Donc un intérêt quand même pour ce type de produit. Et puis surtout aussi la souplesse qu'ils présentent en termes de composition, puisqu'ils peuvent s'adapter à l'environnement. Par exemple, on peut vous proposer des coupons qui vont être indexés directement sur l'inflation. Mmh. Donc attention, pour que ce soit positif pour vous, il faut que l'inflation continue à augmenter, qu'il y ait une hausse continue. Donc attention au point d'entrée. Même chose pour les produits structurés qui ont des sous-jacents qui jouent la hausse des matières premières. C'est pareil, si on pense que les matières premières sont arrivées à un pic en termes de prix, c'est peut-être déjà un petit peu trop tard. Voilà. Vous avez aussi les obligations de sociétés qui ont ce qu'on appelle un fort pricing power, c'est-à-dire qui vont être capables de répercuter
de passer les hausses de prix. Ouais.
Voilà, de placer directement la hausse de prix dans le prix final, tout simplement parce que ce sont des leaders dans leur secteur d'activité, hein, typiquement dans les secteurs de transition énergétique. Je dirais que de façon générale, les taux longs ont déjà en fait intégré l'impact des futures hausses de taux courts et peuvent proposer des opportunités à moyen terme qui sont intéressantes. Ces taux longs, donc ces obligations, vous pouvez les acheter soit directement, soit via des contrats de capitalisation si vous souscrivez à un contrat de droit luxembourgeois. Voilà, donc si vous pensez que l'inflation va continuer à augmenter et qu'il y aura des nouvelles hausses de taux, il faut acheter en plusieurs fois. Si vous pensez qu'on est déjà à un pic,
faut y aller,
à ce moment-là, il faut y aller tout de suite. Voilà. Et vous avez également les OATI, qui sont des obligations d'État indexées sur l'inflation. Mais attention aussi au point d'entrée, car si on est déjà au pic de l'inflation, malheureusement, on risque de vous proposer d'acheter le champagne, comme on dit, mais quand la fête est déjà finie.
Emmanuel Gérinoé, Intersélection, qui nous accompagnait ce matin sur ce terrain de l'inflation et de l'ajustement de son portefeuille. Merci Emmanuel, bon retour. Le marché en baisse d'1%, 6015 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Notre rendez-vous hebdomadaire, les frais bancaires et les frais sur les placements. Les banques françaises se sont engagées à plafonner à 2% la hausse de leurs frais en 2023. Et de son côté, Bruno Le Maire a déclaré « Nous mettons en place un bouclier sur les tarifs bancaires ». Alors qu'en pensez ? C'est un coup de com'?
Alors, Bruno Le Maire, il a deux fois raison. D'abord, il met un coup de projecteur sur un poste budgétaire qui est souvent sous-estimé par les Français, à savoir l'ensemble des frais financiers, bancaires et assurances, tout compris. Et puis, il a aussi raison parce qu'il existe aujourd'hui des solutions assez faciles pour réduire le montant de la douloureuse. Alors d'abord, quelques chiffres pour un peu se rendre compte ce que représentent les frais financiers pour un ménage moyen. Alors, tout dépend de quoi on parle, mais si on commence à parler du compte courant, du compte chèque, du compte à vue, c'est environ 200 euros par an, hors frais de découvert. Hein. Bien sûr, ça c'est des moyennes, on grimpe beaucoup plus vite. Et puis vous avez tout ce qu'on appelle les frais sur les placements. Alors là, vous multipliez facilement par 4, par 5, donc alors le frais, tout dépend bien sûr du montant de votre épargne.
Hein. Bien sûr.
Mais à partir du moment où vous avez un compte titre, donc alors sans le faire tourner extraordinairement, les frais bancaires chaque année, vous en rendez peut-être pas compte, mais lorsque vous additionnez les euros et les pourcentages, les 0,1%, ben au final, ça fait une rivière assez importante, autour de 1000 euros par an de frais sur vos placements, voire bien davantage. Donc c'est un vrai sujet.
C'est intérêt à rapporter.
Le gouvernement a raison de mettre l'accent sur ce poste budgétaire. On parle beaucoup de l'essence, on parle beaucoup du coût du logement, mais c'est vrai que les frais financiers payés par les Français, il y a aussi une source d'économie et de pouvoir d'achat supplémentaire en les optimisant.
Comment peut-on faire pour les réduire?
Excite un petit peu les frais de la banque au quotidien, parce que d'abord, c'est ceux qui pèsent le moins lourd dans les budgets des Français, et puis la solution, elle est bien connue, il suffit, entre guillemets, donc alors, de transférer son compte à vue auprès d'une banque en ligne. Attention, il faut quand même être plus ou moins autonome, donc alors, dans vos opérations de gestion quotidienne. Moi, je vous propose de parler essentiellement des frais boursiers, parce que c'est eux qui font le plus mal. Et quelques chiffres pour s'en rendre compte. Vous placez 100 000 euros, mon cher Cédric, pendant 25 ans à 8%. Au bout des 25 ans, vous aurez 600 000 euros, plus de 600 000 euros. Maintenant, vous placez cette même somme, 100 000 euros pendant 25 ans, mais avec 2% de frais de gestion. Vous n'aurez plus 600 000 euros, mais vous aurez, tiens, tenez-vous bien, 400 000 euros. Ouf. Ce qui fait, sur la période de 25 ans, cumuler 200 000 euros de frais. Donc vous voyez que là, il y a un gain de pouvoir d'achat considérable à s'intéresser à cette matière un peu technique.
Bon, alors comment on fait? Parce alors, que là, effectivement...
Vous savez, en matière de placement boursier notamment, c'est un peu comme en matière de cuisine, le homemade est souvent meilleur et en tout cas toujours beaucoup moins cher. Donc, ce que le revenu recommande aux épargnants, c'est de prendre leur avenir en main, de prendre leur épargne en main et de gérer eux-mêmes leur épargne plutôt que de signer un chèque en blanc à un intermédiaire financier qui, forcément, va vous facturer donc, alors, ses services et souvent fort cher avec un résultat, un surcroît de performance qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, un, gérez vous-même votre compte-titres, gérez vous-même votre PEA. Deuxième conseil, choisissez bien votre intermédiaire financier. Alors, pourquoi ? Parce que la bourse, vous ne pouvez pas intervenir directement sur la bourse. Vous êtes obligé de passer vos ordres par l'intermédiaire d'un professionnel qui va agir en votre nom. Bien sûr, ce service est rémunéré, facturé. ce qu'on appelle les frais de courtage. Il faut savoir que si vous choisissez un intervenant 100% en ligne, donc les chiffres, c'est les chiffres officiels, communiqués par l'AMF, le gendarme des placements, un établissement 100% en ligne pour un ordre sur la place de Paris, Euronext Paris de 5000 euros, ça va vous revenir en moyenne à 0,2%. Si vous passez par l'intermédiaire d'une banque traditionnelle, c'est 3 fois plus, voire encore bien davantage. Autre atout des établissements 100% en ligne, Fortuneo, Boursorama, Bourse Directe, pour ne pas les citer, ils ne prélèvent jamais de droits de garde. Droits de garde, c'est un certain pourcentage prélevé chaque année
par, ligne,
par ligne sur le montant total du compte-titres ou du PEA. Donc voilà déjà deux premières astuces pour réduire le montant de vos frais boursiers.
Si on va un peu plus loin, il y a d'autres méthodes, d'autres moyens?
Alors, bien sûr qu'il y a d'autres méthodes. La première méthode, comme c'est frais, c'est sur vos opérations de bourse, qu'on appelle les frais, l'essentiel, c'est des frais de courtage que vous payez à chaque fois que vous achetez et que vous vendez. Donc, votre sourire me montre que vous voyez où je veux en venir. Donc, forcément, il faut éviter de multiplier les achats, les opérations de vente et d'achat. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous ai parlé de 0,2% lorsque vous achetez les actions. Mais lorsque vous effectuez un arbitrage, vous vendez. Passez par la case impôt, la case frais, 0,2%. Et vous rachetez dans la foulée. Ça fait plus 0,2. Ça fait 0,2 plus 0,2, ça fait 0,4. Bon. Donc ça devient significatif. Donc il faut éviter de faire trop tourner votre portefeuille. Le revenu milite pour un niveau de trading raisonnable. Attention et prudence avec l'Internet mobile. C'est vrai que ça peut être tellement facile aujourd'hui d'acheter et de vendre des
opérations. Ouais, et puis c'est hyper bien designé. On a l'impression.
Très bien designé, ça en frôle le gaming. On peut être tenté, c'est presque humain d'ailleurs, de multiplier les allers-retours. Il faut savoir qu'en termes de performance, en termes de frais, ça se paye. Et ensuite, en termes de performance aussi. Alors, dernière astuce, c'est, oui, le homemade, c'est bien, donc gérez vous-même votre compte-titres, mais plutôt pour en action française ou européenne. Il faut aussi diversifier à l'international votre compte-titres. Et là, tout le monde ne sait pas forcément s'il faut mieux acheter du Facebook, du Apple ou du Microsoft. Donc, c'est pour les actions étrangères, et puis ça coûtait très cher en frais lorsque vous le faites en direct, le revenu. Recommande plutôt de passer par l'intermédiaire d'outils collectifs, de fonds d'investissement. Donc là, c'est vrai que c'est un professionnel qui va gérer pour vous.
Oui.
Conseil, passer par l'intermédiaire ce qu'on appelle des fonds indiciels, c'est en fait qui réplique la performance des grands indices, ce qu'on appelle les trackers, 5 fois moins chargés en frais qu'un fonds géré de façon active, un fonds d'investissement classique, une SICAV ou un FCP. Sachant tout de même que le revenu pour notamment les small caps ou pour la gestion thématique, recommande la gestion par intermédiaire d'un professionnel en direct parce que il offre un surcroît de performance intéressant.
Juste pour terminer en quelques poignées de secondes, vous avez évoqué Bruno Le Maire en début de propos, c'est-à-dire que les pouvoirs publics sont sensibles à cette matière?
Bien sûr, non seulement le sujet est sur la table, mais ils ont commencé à légiférer. Décembre 2016, donc plafonnement des frais pour les FIP et FCPI. Décembre 2019, plafonnement des frais de distribution du Pinel. Ça, on sort un peu des placements financiers de la bourse. Juillet 2020, plafonnement des frais pour le PEA prévu par la loi PAC de mai 2019. La dernière phrase de ma note, c'est « mais il faut aller plus loin
». Dernière phrase de la note, là, c'était vite voilà, fait. Et on vous en remercie. Christian Fontaine, le revenu, un peu pris par le temps. On se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Nous, dans l'intervalle, on va filer sur les marchés et accueillir nos experts pour regards croisés. N'oubliez pas non plus les replays qui vous attendent. Le CAC, lui, menace les 6000 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.